15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux cheveux, ou plutôt aux solutions pour ceux qui en manquent, les médicaments, les injections, les greffes capillaires, et puis on parlera aussi d'une toute nouvelle technique très prometteuse, surtout chez les femmes, chez qui justement, jusque-là, les solutions étaient plus limitées, la greffe de cheveux synthétique. On fera le point avec notre invité, le docteur Ghislaine Bellin, elle est médecin esthétique. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du zona, comment le traiter et faut-il éventuellement se faire vacciner en vieillissant ? Il nous dira tout. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, aujourd'hui, on va parler des tatouages et des risques de douleur ou d'infection si on ne prend pas toutes les précautions. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. On va parler d'une association qui ne fonctionne pas du tout, l'alcool et le sexe. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Katia, 32 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je me pose une petite question parce que je vois pas mal de charbon noir sur internet, produit qui serait apparemment miraculeux pour la peau. Je voulais voir avec vous si c'était vrai et si ça représente un moindre danger pour ma peau ou pas. Merci beaucoup, au revoir.
Alors une première question qui est plutôt beauté, bien-être hein, pour Jimmy, c'est sa spécialité, ça tombe bien. Alors je plaisante, hein, mais quand je vous ai dit qu'on allait parler justement de ces masques au charbon là qu'on voit partout sur internet, vous avez sorti le drapeau rouge, hein, vous m'avez dit attention, d'abord on parle des risques, Mélanie.
Oui, parce que l'efficacité, c'est vous qui en parlerez un peu mieux, vous avez une peau magnifique.
Voilà, donc, c'est ça.
Forcément. Le problème, c'est qu'on voit beaucoup de ce qu'on appelle maintenant les influenceurs qui nous montrent des masques qui seraient extraordinaires. Or, la plupart de ces masques viennent de Chine et ne sont pas conformes aux normes européennes. Et donc, forcément, vous mettez sur votre visage des choses qui peuvent être dangereuses pour votre peau. Donc, attention.
Ça veut dire qu'ils peuvent contenir, par exemple, des produits toxiques. C'est ça qu'on ne connaît pas, nous.
Hein, évidemment, parce que dans le charbon, donc, il y a la matière première, mais il y a aussi une forme de colle. Et cette colle, on ne sait pas exactement ce qu'elle contient. Donc, il y a un risque d'une vraie toxicité cutanée avec des brûlures, une réaction allergique. Donc, évitez vraiment ces produits bon marché. Allez en circuit classique pour vous fournir. N'achetez pas sur Internet et encore moins auprès des influenceurs qui vous permettent des codes promotion, moins 20, moins 30%. Donc prudence.
Après tout ça, là, vous avez parlé de brûlures. Moi, personnellement, je n'ai pas trop envie de tester ces masques au charbon. Mais heureusement, il y a quand même, donc vous le disiez, des marques cosmétiques plutôt européennes là, qui proposent aussi ce genre de masques et normalement avec des produits qui sont réglementés. Alors, ces masques au charbon, quand même, donc on va parler un tout petit peu d'efficacité. Effectivement, ils sont censés purifier la peau, mais avec un effet mécanique. C'est-à-dire que ces masques, ils font une sorte d'effet peeling, hein, un peu comme si vous mettiez un gros sparadrap dessus sur votre peau et que ça, en l'arrachant, eh bien, vous retirez avec les cellules mortes, les peaux mortes et puis quelques points noirs éventuellement. Hein, mais Jimmy, je crois que vous allez être d'accord avec moi, il ne faut pas faire non plus trop souvent ce genre de masque. Hein.
Non, parce que lorsque vous le faites, vous retirez la première couche superficielle de la peau. Et donc, si vous le faites trop souvent, ou de façon trop répétée ou trop rapprochée, vous risquez tout simplement de léser votre peau. Et elle risque d'être du coup beaucoup plus sensible aux infections ou des réactions allergiques. Donc, prudence sur le rythme, on fait ça pas trop souvent.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Olivier, 38 ans, qui nous a appelé de Levallois-Perret en banlieue parisienne. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour à toute l'équipe. J'avais une question, j'ai très souvent des remontées acides et par ailleurs j'ai souvent des angines à répétition. Alors du coup j'avais une question, est-ce que c'est lié, que dois-je faire? Est-ce qu'il y a vraiment un traitement qui existe? Merci beaucoup.
Alors, le reflux gastrique, Jimmy, celui qu'on appelle aussi le reflux gastro-œsophagien, c'est quoi d'abord?
Alors, c'est la remontée acide qu'on connaît tous, qui consiste à avoir une partie du contenu de l'estomac qui remonte au niveau de l'œsophage jusqu'au niveau de la gorge, car dans l'estomac, on fabrique de l'acide. Cet acide est censé dissoudre les aliments. Et lorsqu'on les présente en trop grande quantité ou lorsqu'elle ne reste pas à son endroit, elle remonte et elle irrite l'œsophage, car l'œsophage ne peut pas supporter cette acidité. Et donc, ça donne cette sensation douloureuse qu'on a de reflux gastro-œsophagien.
Alors, c'est très désagréable pour ceux qui le connaissent ou l'ont déjà connu, mais est-ce qu'il y a des risques à long terme? Et par exemple, lui, il parlait d'angine. Est-ce que ça peut provoquer des angines?
Oui, des pharyngites à répétition, des otites chez l'enfant. On sait que c'est responsable d'une toux chronique. Donc, si vous toussez de façon inexpliquée, allez consulter, c'est peut-être un reflux. Donc, attention, ça peut avoir en plus des conséquences sur le long terme. Ça peut donner à minima un risque de cancer, notamment de l'œsophage, lorsque vraiment l'œsophage est très brûlé de façon chronique.
Donc l'idéal, effectivement, c'est de consulter et de se faire traiter. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Olivier qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du zona, une maladie entraînée par le même virus que celui de la varicelle. Et puis, on accueillera aussi notre invitée du jour, le docteur Ghislaine Bellin. Elle est médecin esthétique et elle va tout nous dire sur les solutions quand on manque de cheveux, qu'on souffre donc de calvitie ou d'alopécie chez les hommes ou chez les femmes, bien sûr. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes le docteur Ghislaine Bellin, médecin esthétique qui nous parle aujourd'hui des techniques disponibles quand on manque de cheveux. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler du zona. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette maladie?
Alors le zona, c'est l'infection au virus du groupe varicelle, varicelle zona. La varicelle qu'on a eue dans l'enfance quasiment tous et qui reste sous forme latente, endormie au niveau des ganglions nerveux. Et sous l'effet de la fatigue, du stress, d'une maladie ou parfois sans raison, ce virus se réveille et donne l'éruption cutanée douloureuse en règle générale qu'on appelle le zona.
Alors est-ce que ça touche des personnes en particulier, par exemple les personnes âgées, ou on peut être touché à n'importe quel âge?
Alors ça peut toucher les enfants. Ça arrive, c'est pas très fréquent, mais ça touche plutôt les personnes à partir de 50 ans. Mmh. Et plus on vieillit, plus on risque d'avoir un zona.
Est-ce que c'est grave d'ailleurs, le zona?
Alors, ça peut être grave, notamment chez la personne âgée, car la réponse immunitaire est moins bonne et on est un peu plus fragile. Donc, c'est pas très grave, mais ça peut recommencer une, deux, trois, quatre fois.
Ah oui, parce que ça récidive, hein, c'est
le
ça.
Le risque, exactement,
problème,
c'est la récidive. Ouais. C'est le virus qui reste là et qui se réactive de façon aléatoire.
Alors, est-ce qu'il faut prendre un traitement, du coup, pour éviter ces récidives, justement, peut-être?
Alors, lorsqu'on a un zona, la première chose, c'est de consulter et de ne pas ignorer. Il faut prendre un traitement dans les 72 heures. Un traitement contre le virus de la varicelle. Pourquoi? Ça permet d'éviter les douleurs séquellaires liées au zona. On appelle ça les douleurs post-zoostériennes. C'est des douleurs chroniques qui peuvent vraiment être invalidantes. Donc ça, c'est pour traiter au moment de la crise. Mmh. Et puis sinon, avant, on peut se faire vacciner. La vaccination, à partir de 50 ans, c'est possible. Mais on recommande à partir de 65 ans une injection pour éviter ce virus-là. Car dans le monde, à 85 ans, une personne sur deux a déjà eu une infection au zona.
Effectivement, donc la chance d'avoir un vaccin quand même contre cette maladie. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité du jour pour le dossier. Aujourd'hui, on parle de cheveux, ou plutôt des solutions esthétiques pour ceux qui en manquent, hommes ou femmes, avec notre invité, donc le docteur Ghislaine Bellin, médecin esthétique et vice-présidente du syndicat des médecins esthétiques.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Bonjour docteur Bellin.
Bonjour Mélanie.
Alors d'abord on va poser un petit peu le contexte, hein. Les problèmes de cheveux, ça concerne plutôt les hommes ou les femmes?
Ça concerne les deux.
Ah bon?
Ça se voit un peu plus chez les hommes parce qu'ils ont en général les cheveux courts. C'est chez les femmes qui portent des cheveux longs, elles le cachent avec le problème de perruque. Il y avait moins de demandes, on en parlait moins. Mais les hommes le traitaient, il y a eu la mode des cheveux rasés pour cacher ces paires de cheveux, on appelle ça l'alopécie androgénique qui vient avec l'âge. Et les hommes, il y a eu les modes où on se rase, on les voit de plus en plus avec des... C'est un petit peu la mode qui vient des joueurs de football, où on les voit les crânes rasés. Les femmes, elles ne vont pas se raser la tête, en mettre des perruques.
Jimmy?
Et du coup, une femme qui perd ses cheveux, c'est traumatisant, mais aussi pour un homme. Est-ce que c'est un passage obligatoire? Pourquoi on perd nos cheveux d'ailleurs?
Ben, il y a plein de facteurs. C'est le bulbe pileux, c'est-à-dire la graine, la racine du cheveu qui peut être affectée. Alors ça peut être des manques de vitamines, des carences en fer, problèmes thyroïdiens, ça on le connaît, c'est très classique au niveau médical. Après les grossesses, les femmes qui ont donné, ben, le petit il a pris tout le fer, tout le collagène, il a tout pris. Donc on sait qu'il y a cette perte de cheveux, cet effluvium, ce qu'on appelle qui est un petit peu, les cheveux, il y a les phases de croissance différentes, on va perdre les cheveux après, il y a certaines carences. Il y a le vieillissement, l'âge. c'est inéluctable, c'est le manque de renouvellement cellulaire. Ça va être comme l'ostéoporose, comme la peau, les os, les articulations, le cartilage. On se dégrade plus vite qu'on se répare, on se répare moins. Et toutes nos cellules souches qui sont censées refaire du cheveu, ça fonctionne au ralenti. Donc, il faut les rebooster. On a un monde où on vit plus longtemps, l'esthétique est importante, donc la demande se manifeste.
Et vous me disiez quelque chose d'intéressant en préparant l'émission aujourd'hui, c'est que les hommes, chez les hommes particulièrement, ces pertes de cheveux, elles sont de plus en plus précoces. Vous voyez de plus en plus d'hommes jeunes, finalement, qui consultent pour ça.
D'abord, il y a la demande. Avant, on perd ses cheveux, c'est comme ça. Maintenant, le phénomène d'image dans la société, il y a un peu plus de demande. Mais c'est vrai qu'on a décrit pour la première fois en 1994, ce qui est très récent, en Australie, l'alopécie frontale fibrosante.
C'est quoi ça ?
C'est-à-dire le recul des cheveux sur le crâne.
Chez les hommes, hein ?
Chez les hommes. Les golfs, et chez des hommes jeunes, 30, 35 ans, alors qu'avant, on s'en plaignait, c'était plutôt le petit rond sur le crâne de...
Du curé,
j'avais déjà cité la publicité, là, du petit curé. Et là, maintenant, c'est le recul, ce sont les golfs temporaux, ouais. Hommes et femmes.
La ligne de cheveux a reculé depuis 10 ans, quoi, voilà. C'est ça. C'est quand même assez dingue. Et on l'explique comment, ça ?
Il n'y a pas d'explication. Alors, au début, on l'a expliqué. On pensait que c'était des lichens plans, cousins germains, avec des résultats, des problèmes auto-immun au niveau dans les biopsies à la racine des cheveux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. On ne sait pas. On ne sait pas trop. Facteurs
environnementaux,
mécaniques, hormonaux,
les casques de moto, peut-être.
Perturbateurs endocriniens. Casque de moto, mais soleil, mauvais produits, maquillage cosmétique ont été mis en cause, écrans solaires ont été mis en cause chez les femmes, on ne sait pas trop.
Alors on va passer à toutes les solutions esthétiques qui existent aujourd'hui justement pour régler tout ça. Surtout, vous restez avec nous, docteur Ghislaine Bellin.
Europe 1.
Dans un instant, on va donc rentrer dans le concret, on va parler des médicaments, des injections et même des greffes de cheveux, naturelles ou synthétiques. C'est tout nouveau ça, c'est autorisé depuis le mois de juillet, c'est très prometteur, vous allez voir, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous où vous êtes tous bien sûr les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Ghislaine Bellin. Vous êtes médecin esthétique et spécialiste notamment du cheveu. Vous traitez ce qu'on appelle la calvitie ou les alopécies. Alors là maintenant, on rentre dans le concret. D'abord, quand on manque de cheveux, est-ce qu'il y a des traitements médicaux, hein, des médicaments, j'imagine, avant de parler même de greffe, on peut faire des choses en local ?
Bien sûr, puis déjà, première étape, compléments nutritionnels, certaines vitamines, il y a des carences. Je ne vous parle pas aussi des les anorexiques, les régimes pas appropriés. On est dans une mode où on voit arriver des régimes un petit peu carencés. Manque de vitamines, d'apport de ligoléments, de sels minéraux, de protéines, de structures, ça pour fabriquer le cheveu, la peau, les os, mais tout, les ongles, les dents, tout. Donc y a, déjà, on peut commencer par les compléments nutritionnels. Sinon, pour stopper la chute des cheveux, il y a aussi un médicament qui était dans la recherche, on l'utilisait pour autre chose, on s'est aperçu qu'il arrêtait. Stopper la chute des cheveux, c'est le fameux minoxidil. Donc ça, on l'applique sur les cheveux. Bon, ça ralentit la stop, ça l'arrête. C'est un peu gras, si vous savez les cheveux. Les hommes, c'est facile, ils l'utilisent très facilement. Femmes, un peu plus compliqué parce qu'il faut savoir les cheveux. Après, donc ça stoppe là, la chute des cheveux, mais ça ne fait pas repousser. Après, on a des techniques d'injection locale. En gros, je dirais, c'est de mettre de l'engrais pour favoriser, nourrir le bulbe. C'est de la mésothérapie. Des cellules souches, différentes techniques.
Jimmy ?
Mais justement, la mésothérapie, ça consiste en quoi ? Et surtout, est-ce que ça marche vraiment ?
Alors, la mésothérapie, ça consiste, c'est une technique d'injection locale, de petite quantité, sur la zone que l'on veut cibler. Donc là, on veut cibler le cuir chevelu, on peut le faire avec des anti-inflammatoires sur des articulations pour les douleurs. Là, on va mettre des vitamines au niveau des cheveux. On a utilisé pendant 30 ans, des années, du bépanthène biotine avec des résultats très insuffisant dans les fesses en intramusculaire, dans les cheveux. Bon, ça ne fait rien. Quoi. Certaines personnes s'en sentent mieux. Ce n'est pas dangereux. C'est très bien. Il y a souvent des carences dans ces vitamines. Mais là, j'ai publié une étude qui montrait qu'en utilisant des complexes de multivitamines qu'on va utiliser dans les mésolifts, la même chose sur le visage pour stimuler la cellule de la peau, le fibroblaste, pour faire du collagène. Donc, j'ai dit, bon, c'est un problème de vieillissement. Pourquoi on ne fait pas la même chose ? On va stimuler la cellule du cuir chevelu, le bulbe pileux. Donc ça, des protocoles de 10 séances font repousser les cheveux et on les associe avec des lumières.
Et
les
ça coûte LED combien aussi. Ça
Ça coûte une séance, alors on va combiner tout ce qui marche.
Moyenne.
Le LED marche et ça, on est à 200 euros. Mais il faut faire un protocole de 10 séances.
D'accord.
Ça va être sur 6-8 mois.
C'est toujours moins cher que les greffes de cheveux. D'ailleurs, on va commencer à en parler. Les greffes capillaires de cheveux naturels, hein, pour l'instant. Donc, c'est ce que...
Les implants de cheveux.
Voilà, les implants de cheveux,
autologue,
exactement. Autologue. Là, ça se passe comment ?
Donc là, un médecin spécialiste, un chirurgien, on vous prélève vos propres cheveux dans des zones dont on sait qu'elles vont pas se perdre en densité, c'est-à-dire en général au-dessus de la nuque. Mm-hmm. On vous prélève, on les découpe en petites bandelettes, en petits sushis, souvent je dis en rigolant, les un par deux, par deux ou trois à la fois, pour que ce soit plus esthétique, on va essayer de mettre un par un. On les prélève, on les réimplante là où on manque de cheveux.
On doit raser la tête d'abord. Hein.
Oui, pour faire ça, il faut raser. Il y a eu des techniques de bandelettes. On voit des gens avec des cicatrices au-dessus de la nuque dans le cuir chevelu. Ça laisse une cicatrice. On réimplante. Il ne faut, faut pas perdre le greffon entre-temps. Il faut qu'il soit vivant. Il faut qu'il réimplante, qu'il repousse. C'est comme mettre des plantes de géranium dans votre
jardin. C'est plutôt chez les hommes, hein, on ne le fait pas trop chez les femmes.
Ben, les hommes vont très facilement à cette technique parce que raser, ce n'est pas un souci. En 3-4 jours, on s'est recouvert. Les femmes se raser, c'est pas possible, quoi.
Jimmy.
Et ça, c'est la meilleure technique qu'on peut avoir pour avoir un résultat satisfaisant.
Oui, c'est très validé, c'est très contrôlé. Maintenant, il y a des techniques qui sont robotisées, les techniques sont améliorées en cheveux un par un, même aussi. On a vraiment amélioré. Ça se fait depuis des années, depuis.
Et chez les hommes, ça marche très bien parce qu'il y a pas de baisse hormonale justement au moment de la ménopause.
Enfin, si, là,
y a pas de
ménopause. Si, ouais. Si, ils ont la même chose. Détrompez-vous, il y a pas que nous que la ménopause, ils ont l'andropause.
Mais c'est plus lent.
C'est plus lent, donc on n'a pas cette chute-là. Et donc, mais ça permet de redensifier, c'est très efficace. Les hommes ont beaucoup recours à ça. Les femmes, difficile, il faut se raser. Mmh. C'est long, on n'a pas le résultat. Ça pousse tout doucement, il faut que ça repousse.
Merci beaucoup, docteur Bellin. On va continuer à parler des greffes capillaires de cheveux. On n'en a pas terminé, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on parlera aussi d'une toute nouvelle technique qui vient d'obtenir son autorisation en France grâce à son marquage CE au mois de juillet. Ce sont des greffes de cheveux synthétiques, c'est assez prometteur, vous allez voir, notamment pour les femmes qui en ont besoin. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Ghislaine Bellin, médecin esthétique et vice-présidente du syndicat qui regroupe ses professionnels en France. Alors on va d'abord terminer sur les greffes de cheveux naturels. Vous disiez que je crois en une matinée, en fait, vous greffez les cheveux, un cheveu par cheveu ou deux ou trois par cheveu et qu'on obtient des bons résultats, surtout chez les hommes. Mais quand on décide de le faire, comment on est en fait? On passe la matinée chez vous, puis on peut aller travailler l'après-midi?
Pas chez moi. Moi, je ne fais pas de greffe. Là, c'est certains confrères, des spécialisations. Mmh. Mais bon, on est dans le diplôme universitaire qui enseigne tout ça. Moi, je m'occupe des techniques non chirurgicales. Alors, en une matinée, on va vous greffer plusieurs à la fois. Ce sont les techniques classiques de bandelettes. 2000 cheveux, ça va prendre 4 heures. Si on passe à la technique un par un, on en passe à 8 heures. Mmh. Donc, c'est plus de temps, plus d'équipe, plus d'anesthésie, plus d'effets secondaires, voilà.
Et on peut aller travailler l'après-midi, enfin, est-ce que le lendemain on est présentable?
Ah non. Ouais. Non, vous avez la tête qui est comme une calebasse, qui a doublé de volume, vous avez un œdème au niveau de la tête, il y a des bandages, il y a tous des points rouges. On peut, hein, si vous n'avez pas peur de vous promener comme ça dans la rue, mais vous avez des points rouges partout, sur l'arrière,
donc
sur le dessus.
Une petite semaine de vacances, peut-être.
Souvent, il y a un gros pansement compressif, oui. Oui.
Une petite semaine?
Quelques jours, ça dépend. On en voit beaucoup, vous ne pouvez pas deviner, mais dans la rue, en général, tous ceux qui ont les petits bonnets sur la tête, c'est qu'ils ont une greffe, qu'ils ont un pansement compressif en dessous.
Jimmy ?
Et évidemment, on le comprend, ça a un coût. Il faut compter combien pour avoir cette greffe ?
Alors, un coût moyen de... Je dis moyen, global...
Bien sûr, une fourchette.
Voilà, une fourchette. 2000 cheveux en technique classique de bandelette, qui sont les plus rapides, les traditionnelles, qui va durer 4 heures, on doit être à 5000 euros. Si on passe aux cheveux un par un, 8 heures, la technique prend plus de temps, plus de personnel,
là,
il faut des
double,
assistants.
Prix,
on n'est pas loin du double, on est entre au moins 8000 euros. Et c'est 8 heures. Hein. 8 heures d'anesthésie locale, de ne pas bouger. C'est un stress pour la patiente, mais il y a une grosse demande, c'est un gros bénéfice aussi. C'est un stress pour l'organisme aussi. Voilà,
Mais ça donne de bons résultats. Alors j'en ai parlé il y a quelques minutes, maintenant on va passer à la nouvelle technique qui est autorisée en France depuis juillet en Europe, même si pour prouver l'efficacité, la tolérance, vous en avez déjà testé cette méthode sur plusieurs patients. La greffe de cheveux synthétique, qu'est-ce que c'est?
Alors il faut savoir qu'il y a des patients à qui on ne peut pas faire de greffe de cheveux, on ne peut pas faire de transplanter ses propres cheveux. Ils n'ont pas de zone donneuse, ils n'ont pas de zone qui reçoit, où ils les rejettent, où il y a des infections ou des complications. Et cette recherche a démarré il y a quelques années. L'idée, c'était de mettre des cheveux de synthèse. Les premières techniques ne marchaient pas, faisaient des complications ou autres. Et là, il y a des chercheurs qui ont mis au point des startups de recherche qui ont mis au point, ce sont des Israéliens, les stents de cardiologie, qui ont dit on va prendre le même métal que les stents de cardiologie.
Pour accrocher ces choses.
Voilà, les petits ressorts qu'on met dans le cœur pour déboucher vos artères. On va prendre du titane, titanium, titane, nickel, pour faire des mini-encroches miniaturisées. Là, on est de la haute technologie chirurgicale. Et on va accrocher dessus un cheveu synthétique. Ce cheveu synthétique est un fil de nylon de suture chirurgicale.
Ils sont très, très jolis, ces cheveux. Des
sutures chirurgicales. Donc, on en a plein le corps permanent. Donc, ils les ont travaillés, teintés, pour que la couleur ne parte pas. On a travaillé toutes les couleurs.
Ça ressemble un peu à des cheveux de bonne perruque, quoi. Hein, c'est ça, de la qualité,
non ? Ça ressemble à vos propres cheveux. Mm. Les coiffeurs ne font pas la différence. Donc, il y a eu des gros tests derrière, de tolérance, et puis qui a amené à un marquage médical CE de Medical Device autorisé sur l'Europe.
Jimmy ?
Et donc, on peut choisir sa longueur, la couleur aussi du cheveu, mais comment est-ce qu'on accroche ça, en fait ? Comment est-ce qu'on fait ?
Ça se présente sous forme de petites cartouches, tout est stérile. Les cheveux sont glissés dans des aiguilles, plusieurs. Le système est à usage unique automatisé. Petite cartouche, on appuie, on implante, on clique, on déclique. À la fois, on peut implanter 25 cheveux d'un coup en petit carré.
Des cheveux longs en plus, à la taille
long,
qu'on veut,
direct,
hein, c'est l'avantage.
Sous anesthésie locale, ça pousse la petite encre qui est fermée, qui rentre comme une aiguille de mésothérapie. Paf, elle s'ouvre. Vous retirez le système d'implantation, là,
comme un gros stylo injecteur
qui a les 25 cheveux à la fois, ou qui a des petites bandes de 12 cheveux qu'on a fait mettre en zigzag pour pas que ça fasse des bandes, et on le retire, ils sont implantés, ils sont accrochés.
Accrochés avec ce matériau, donc qui est biocompatible, il n'y a pas de risque de rejet, par exemple ?
Ah non, parce que quand vous avez un infarctus, même on vous opère, on vous pose de stents, il n'y a pas de rejet.
C'est des matériaux qui sont prévus pour ça. Jimmy ?
Et ça marche du coup très bien, hommes, femmes, c'est exactement pareil ?
Pareil, bien sûr, bien sûr.
Mais c'est plus pour les femmes, hein, c'est ça ?
C'est-à-dire que les femmes, elles n'ont pas tellement d'alternatives là. On a une restauration capillaire. Comme c'est long, le système d'implantation est complètement différent. On les pose sur le dessus, là où c'est le plus vide, ça couvre. Donc avec 500 cheveux, 500, 800, j'ai le même résultat que 2000 cheveux, greffe de cheveux.
Ah oui, d'accord.
Et sans en assise locale, ça va prendre une heure pour le couvrir.
Ah oui, au lieu d'une matinée, comme vous disiez, pour les greffes.
Et avec un effet immédiat. Avec un effet immédiat. Et toutes les contre-indications aux greffes de cheveux aussi, c'est une alternative. Donc c'est une toute nouvelle technologie qui est très, très prometteuse. On peut redensifier instantanément toutes ces femmes après la ménopause à cinquantaine. Une femme sur cinq va avoir une alopécie. On voit le crâne, on voit l'air qui passe au milieu. Là. Les cicatrices, on couvre aussi des cicatrices de lifting. On ne peut pas faire un implant de cheveux, un transplant.
Et l'avantage, c'est que c'est des mini-mèches directement déjà longues. Donc en plus, on n'attend pas que ça pousse. Les cheveux, c'est long à pousser.
Non, elle est posée immédiatement. Zéro effet secondaire.
Ça dure une heure.
Le soir même, vous n'avez pas d'œdème, pas. On met une
Il y a des petites croûtes quand même, ou des petites.
Non,
même pas, ça ne saigne pas.
Ça
non.
se referme, ça, une anesthésie locale. On met quoi ? Une antibiothérapie, mais comme chez le dentiste. Après, ils vont tripoter dans les dents, on met un antibiotique parce qu'il y a plein de petits trous, parce que le cuir chevelu, on rase pas, et puis c'est tout.
Jimmy ?
Bon, au vu de la technologie, on se doute que ça doit coûter assez cher, ce qui semble plutôt normal, mais combien faut compter globalement ?
Alors effectivement, c'est une nouvelle technologie. Il y a 5 ans de recherche derrière, d'études, de travaux, de validation, avant d'avoir les autorisations des organismes médicaux de marque HE, les dossiers cliniques. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur ces dossiers. C'est tout un bazar à faire. Mmh. Et ces enregistrements. Donc, on est le prix, là, on est à 10 euros le cheveu.
Ça fait combien au total quand je m'en mets, je ne sais pas
500
ouais.
Ça va vous faire 5000.
Oui, c'est un peu comme ça va être à peu près le même prix que les greffes.
Ça va être le prix d'une greffe de...
Mais sans la douleur, finalement, c'est moins douloureux, ça dure moins longtemps, et puis on peut aller travailler finalement...
Vous allez au restaurant le soir même avec votre nouveau fiancé ou votre chéri.
Et ça ne risque pas de tomber comme c'est faux, c'est des cheveux synthétiques. Moi, je me dis, j'imagine qu'ils vont tomber, c'est bien accroché quoi.
Déjà, c'est la force d'extraction, c'est-à-dire pour les arracher, est 2,5 supérieure. Tout ça a été testé au niveau mécanique. 2,5 supérieure à celle d'un cheveu naturel.
Ah, ça tient mieux que les cheveux naturels,
oui.
D'accord.
Si on essaye de... ça a été mesuré par des physiciens.
Vous pouvez tirer les cheveux, Jimmy, il n'y a pas de problème, ça tient.
2,5 plus, ça tiendra. Pas plus.
Vous pouvez tirer 2,5 plus fort.
Mais il y a des tas de facteurs qui font qu'on va en perdre un petit peu. Les mécaniques d'irritation, les mauvais soins que l'on fait, le chauffage, le machin. Comme pour les autres. Hein. Et on estime peut-être à 10% la chute, perte de cheveux.
Et les patients qui ont déjà été, qui ont déjà bénéficié de cette technique, ils sont contents? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous avez des cas de patients,
ils
de patientes?
Ils ne supplient de l'en refaire. Donc on dit qu'il faudra attendre l'autorisation parce qu'ils étaient en protocole d'études, en comité d'éthique et tout ça. Donc sinon, je dis, je vous le fais en Suisse, je vous le fais aller le faire en Israël, aller le faire en Yucca ou au Brésil, qui ont déjà les marchés qui ont déjà été ouverts.
Merci beaucoup, docteur Ghislaine Bellin, d'être venue sur notre plateau. Grâce à vous, on a compris qu'il y a maintenant tout un éventail de solutions pour retrouver une belle crinière plus dense en cheveux quand on en manque. Merci encore.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et cette semaine, on parle des tatouages. Et justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole à vous, qui êtes peut-être déjà tatoué ou qui aimeriez en faire un. Votre avis, vos expériences, on écoute son micro-trottoir.
J'en ai pas, mais j'aimerais bien en avoir.
Je crois que ça fait très mal quand on en fait un, ouais. Et même le retirer. C'est des dermatos qui m'ont dit ça.
Ça m'est arrivé d'y réfléchir, mais non. C'est pas quelque chose que je souhaite faire, mais non, ça me fait pas peur.
Moi, je trouve ça plutôt ridicule.
Ça me fait quand même peur de voir le tatouage s'infecter ou de me retrouver avec un truc horrible sur le corps qui est pas du tout ce que je voulais à la base.
Sauf si on se fait tatouer avec une aiguille sale ou le sida, je crois, non ? On peut pas choper le sida comme ça ?
À chaque fois que j'ai envie de me faire un tatouage ou que je suis en passe de me faire un tatouage, je passe à la pharmacie, j'achète une crème anesthésiante, je passe à l'endroit où je vais avoir mon tatouage et comme ça c'est beaucoup plus simple et je ressens beaucoup moins la douleur que quand je suis au salon.
Alors d'abord, il faut dire que les tatouages en France, hein, c'est de plus en plus à la mode. Hein. On estime qu'il y a au moins 15% de la population française adulte qui a au moins un tatouage, surtout chez les moins de 30 ans. Alors, c'est vrai que ça peut être joli. Hein. Parfois, c'est même carrément artistique. Hein. Il y a des vraies œuvres d'art en tatouage. On voit des vrais artistes tatoueurs. Alors, il faut rappeler quand même, Jimmy, nous ici, on est une émission de santé, donc on est obligé de rappeler quand même qu'il y a certaines précautions à prendre avant de franchir le pas.
Oui, Mélanie, si vous voulez vous tatouer un dragon ou un dauphin sur l'épaule...
Non, mais j'ai vu votre souris sur la fesse, elle est vraiment pas jolie, donc j'ai oublié.
Bah, écoutez, en tout cas, moi, j'ai été le faire, pas chez n'importe qui. On évite les marchands ambulants, les tatoueurs un peu précaires et qui sont pas formés pour.
Parfois dans les festivals de
musique,
c'est la musique
souvent,
au marché.
Souvent, ou sont en prise de l'alcool. Donc attention, donc aller chez un vrai professionnel, c'est le seul qui peut faire ça dans de bonnes conditions.
Alors justement, c'est quoi les règles d'hygiène auxquelles il faut impérativement veiller si
et donc, il faut un tatoueur professionnel qui, lui, a suivi une formation pour respecter des règles d'hygiène. Et si jamais vous avez un doute, il y a un syndicat des artistes tatoueurs pour être sûr qu'il est bien inscrit et que vous avez affaire à un vrai professionnel qui aura aussi un matériel adapté. Parce que l'enjeu, on va le voir, il est surtout sanitaire.
Alors, on surveille quoi justement chez le tatoueur? Alors d'abord, on vérifie, vous l'avez dit, que c'est un bon tatoueur, qu'il est inscrit au registre du syndicat des artistes tatoueurs. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on est sûr qu'a priori c'est un bon, avec le bouche à oreille aussi ça marche bien, on voit que quelqu'un a été content avec cet artiste-là. On surveille quoi concrètement dans la salle de tatouage?
Alors, n'oubliez pas que faire un tatouage, c'est faire une plaie. Qui dit plaie, dit matériel médical. Et donc le tatoueur, lui, il aura un matériel à usage unique pour plusieurs raisons. On l'a évoqué un petit peu dans le micro-trottoir. La première, c'est qu'on peut avoir des risques de plaies avec des surinfections, avec des transmissions de bactéries, mais plus grave, des virus comme le virus de l'hépatite, le virus du sida.
Il y a des gens qui ont été contaminés comme
exactement.
Ça, effectivement.
Donc, lui, il permettra vraiment, avec un matériel stérile à usage unique, d'éviter de vous transmettre des maladies. Et puis, vérifier que l'encre n'est pas mélangée avec de l'eau qui serait non stérile, car là, encore une fois, vous risquez d'attraper des maladies. Donc, tout ça, c'est des règles qui paraissent plutôt évidente, mais qu'il faut vraiment, vraiment respecter.
Donc, il ne faut pas hésiter, quand on arrive chez un tatoueur, de lui demander de montrer le matériel stérile. C'est quoi, qu'est-ce que vous allez utiliser comme encre, comme produit? Montrez-moi. On a en droit de demander à avoir du matériel propre et stérile. Alors ensuite, Jimmy, il y a d'autres règles qui sont un peu évidentes. Un tatouage, je vous avais dit, c'est comme une blessure. Donc, on évite de se faire tatouer n'importe où. Il y a des zones un peu dangereuses, sûrement, sur le corps. Et puis, on évite de le faire là où on a déjà une cicatrice, un grain de beauté, un gros grain de beauté même. Il ne faudrait pas non plus qu'il y a un début de mélanome sur la zone où on va se faire tatouer. Donc, il faut rappeler qu'après le tatouage, aussi d'ailleurs, il y a d'autres règles à respecter une fois qu'on a choisi la bonne zone.
Alors oui, le tatouage, c'est comme une blessure et donc forcément, ça a des conséquences et il faut que ça cicatrise correctement. Donc on peut déjà, comme vous l'avez dit, éviter les zones qui comportent des grains de beauté, les zones qui peuvent s'infecter facilement ou qui ont déjà été infectées. Ensuite, n'oubliez pas qu'il vaut mieux éviter de se faire tatouer au moment de l'été, car la cicatrisation sera moins bonne et les risques d'avoir un moins bon tatouage sont plus importants avec le soleil. Donc plutôt en hiver, pour éviter de s'exposer. Et puis ensuite, il ne faut pas hésiter à surveiller, car il y a un risque de réaction allergique dans les jours ou semaines qui suivent. Donc il peut y avoir quelques petites complications.
Et on fait quoi sur ce tatouage une fois qu'on l'a fait? Donc on le fait plutôt en automne ou en hiver, vous l'avez dit, pas au moment du soleil, parce que justement on ne peut pas l'exposer au soleil pendant quelques semaines. On le fait donc en hiver. Et
On met quoi dessus quand on rentre à la maison? Parce que bon, le tatoueur, en général, il fait un soin, il met un pansement dessus, il le filme, il met du gras. À la maison, on continue ça, j'imagine, mais pendant combien de temps?
Alors, il ne faut pas hésiter. Donc, on a bien dit, c'est une plaie, donc il faut la désinfecter. Il ne faut pas hésiter. Le tatoueur, en général, vous donne quelques règles d'hygiène de base. Il faut éviter que ça macère, donc éviter à ce moment-là d'aller à la piscine, d'aller à la plage. Mais ensuite, il faudra mettre une petite pommade cicatrisante tous les deux jours. Pendant 3 semaines, 1 mois, et si jamais vous avez des croûtes, évitez de les arracher, car elles vont tomber toutes seules, et finalement, il y aura une plus belle cicatrice.
Et au moindre signe, justement, que ça cicatrise mal, je ne sais pas si ça suinte, ou si ça devient tout enflammé, on fait quoi? On consulte, surtout
très vite.
Oui,
consulter. Et j'ai souvenir d'une patiente, justement, qui avait un tatouage avec une plaie un peu suspecte, elle a commencé à avoir des croûtes un peu noirâtres, suintantes, un peu douloureuses, et puis au bout d'une semaine, elle a fait une vraie inflammation, une vraie infection. Donc là, dans ces cas-là, il faut vraiment consulter, ne pas hésiter à voir son médecin généraliste ou aller aux urgences si vraiment ça ne va pas. Et dans ces cas-là, on prescrit souvent une petite pommade antibiotique, voire des comprimés d'antibiotiques. Donc attention, un tatouage, c'est une plaie, ça peut s'infecter, donc il peut y avoir des complications. Donc faites-vous suivre et n'hésitez pas, mieux vaut consulter pour rien que de laisser traîner.
Et mieux vaut bien réfléchir aussi, parce qu'on en parlera dans une autre émission, mais se faire détatouer, c'est pas si simple qu'on imagine. Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler d'une association qui ne fonctionne pas du tout, l'alcool et le sexe. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on parle de sexualité avec des sujets qui concernent tout le monde. Et aujourd'hui, on parle de sexe et d'alcool avec cette question qui nous a été envoyée par Lorraine, 29 ans, je vous la lis. Ma gynécologue m'a conseillé de prendre un petit verre pour me détendre et être plus à même de répondre aux besoins de mon mari. Qu'en pensez-vous? Vous, Catherine. Catherine, moi je trouve ça quand même dingue. Déjà, le conseil venant de la gynéco, vous en pensez quoi, vous?
Alors, déjà, moi ce que je trouve dingue, c'est qu'il faut pouvoir répondre aux besoins d'un mari.
Oui, voilà. Ça
me paraît assez hallucinant. C'est-à-dire que quelle drôle de vision que l'on peut avoir du sexe féminin qui est en devoir de sexualité et qui, s'il est réfractaire, s'il est pas lubrifié, s'il est douloureux, s'il est tendu, devrait se détendre absolument pour répondre aux besoins masculins. Là, il y a quand même quelque chose qui est pour moi assez...
Éventuellement,
assez
on a tous les deux des besoins, mais à dire que je dois répondre aux besoins de mon mari, c'est un peu abusif, effectivement. Et alors, l'idée du petit verre, comme l'a suggéré sa gynéco,
alors,
vous en pensez quoi?
Nous sommes français, nous aimons, il n'est pas question d'ailleurs de dire du mal de nos productions françaises délicieuses. Ceci étant, un petit verre, c'est pas nécessairement de vin, ça pourrait être de camomille, ça pourrait être de lavande.
Moi, j'ai directement pensé à l'alcool. Mais...
voilà, mais pourquoi pas? Parce que finalement, se détendre, on n'est pas obligé d'être... Alors, un petit verre est une chose.
Oui, un verre, c'est pas non plus...
Mais le fait que ce soit un rituel, sans compter que c'est en plus du sucre, du glucose, et que je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées avant d'aller se coucher, d'un point de vue physique. Pourquoi pas? Ceci étant, à aucun moment, c'est une ordonnance, à aucun moment, il faut penser qu'il faut vaincre les défenses naturelles de l'individu. Si cette femme a des difficultés à se détendre, la question se pose plus de ces tensions dans sa relation avec son homme.
Avec quoi on peut se détendre en dehors de l'alcool, justement? Parce qu'il y a d'autres choses pour se détendre avant un rapport sexuel si la femme est tendue.
D'abord, c'est comprendre pourquoi elle est tendue. Est-ce que c'est sa relation amoureuse qui est dans laquelle elle est tendue? Est-ce que c'est sa vie personnelle, familiale, professionnelle? Auquel cas, comment elle apprend à compartimenter les choses? Parce qu'on n'est pas en fonction sexuelle après avoir été en fonction professionnelle, puis en fonction maternelle. Et à aucun moment, c'est bon, allez, un petit coup, et alors ça va aller, je vais pouvoir me donner du cœur à l'ouvrage. Ça, c'est un glissement de terrain de déni de soi et vers l'alcoolisme qui n'est pas une très, très, très bonne idée.
Jimmy ?
Et pour revenir à l'alcool, que dire aux jeunes qui ont des rapports sexuels, justement sous l'emprise de l'alcool ou de certaines drogues, comme si c'était un mode normal de consommation d'alcool et finalement de sexe ?
C'est souvent une façon de ne pas assumer ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, c'était pas moi, c'était j'étais pété, j'étais bourré. Comme ça, je ne suis pas responsable de ce que je vais montrer de moi, de mon désir, de mon excitation ou de ce que j'aurais osé faire. En général, c'est les femmes. C'est ce qui n'assument pas ce qu'elles vont faire. Les hommes, au contraire, ils veulent le faire ou ils ont peur. Il va falloir pénétrer une femme. C'est quelque chose quand même qui n'est pas banal. C'est quand on est jeune homme, ça, se donner du cœur à l'ouvrage, y arriver, on on peut avoir peur. Donc il faut être, il faut se sentir en capacité. Et souvent, on a besoin d'enlever nos inhibitions. Et du coup, l'alcool ou les drogues sont le meilleur, la meilleure proposition que la jeunesse se donne. Alors que pas du tout, puisque souvent, d'ailleurs, ça entraîne, par exemple, pour les jeunes hommes qui ont plutôt une tendance à l'éjaculation précoce, encore plus rapide. Mmh. Pour ceux qui, au contraire, peinent à éjaculer, ils n'y arrivent plus. Alors là, on est dans un truc
alcool
interminable.
Alcool et rapport sexuel, au-delà du fait qu'il ne faut pas prendre ça pour se déstresser, voilà. Mais ça ne fait pas bon ménage, même physiologiquement
non,
parlant.
Ça ne fait pas bon ménage. C'est vraiment... ça vient abîmer, d'ailleurs, nombre de personnes le disent. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'éjaculation vient plus rapidement.
Ou ne vient pas du tout, non ?
Ou ne vient pas du tout, ça dure des plombes. Les femmes peinent à se lubrifier, notamment avec certains types d'alcool. Du coup, elles sont plutôt dans une sécheresse vaginale. Mmh. Alors certes, elles sont moins présentes si elles ont beaucoup
moins
bu.
Moins timides, voilà, ou moins je ne sais pas quoi.
Mais pour autant, elles sont en difficulté. D'ailleurs, on le voit bien. On a la bouche pâteuse. Eh bien, nos muqueuses, d'une façon générale, peinent à se lubrifier à ce moment-là. Donc, ce n'est vraiment pas l'indication à donner, qui plus est quand on est médecin. Mmh.
Et donc, l'alcool et sexe, on a bien compris, ça ne fait pas bon ménage. Mais surtout, si on en prend l'habitude, c'est ça. C'est parce que là, elle disait pour me donner du... Enfin, la question, c'était pour se donner du courage. Pour être moins stressé, c'est vraiment une très mauvaise habitude à prendre. Hein,
oui,
c'est ça.
Et puis en plus, prendre une habitude, c'est en faire une addiction à, encore une fois, prenons du plaisir à goûter de bons vins, prenons du plaisir à boire des alcools et du plaisir à un
toujours avec modération, bien sûr.
Mais pour autant, faisons attention, puisque ça n'est physiologiquement pas souhaitable, pas du tout souhaitable.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr lundi, vous ainsi que le docteur Jimmy Mohamed dans Sans Rendez-vous. Sans Rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, je sais que vous êtes épuisée après votre émission, mais vous allez rester avec nous justement pour vous détendre, mais intelligemment. C'est le principe de cette grande compétition qui oppose les meilleurs journalistes d'Europe 1. Ça s'appelle l'équipe sauvage. 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité passionnant, Éric-Emmanuel Schmitt, qui vient nous voir pour son nouveau livre.
Merci Mathieu et bonne émission. Restez sur Europe 1.